Puis tu sais, respect, agilité, comme tu dis, ça veut comme plus rien dire. C'est super galvaudé, là.
Tu sais, on est agile, c'est qui Gilles? Mais on...
Les Neurodivertissantes, le podcast qui célèbre l'unicité neurodivergente et qui explose les préjugés pour un monde plus inclusif.
Épisode 41. Parce qu'un artefact, c'est pas toujours un crâne de cristal.
Avec vos animatrices, Solène Métayer, Fran Deloum et Mélissa Saint-Louis. Accrochez-vous, il y a de l'idée à la minute ici.
Alors, bonjour tout le monde, chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Donc, vous m'entendez en ce moment dans vos oreilles, c'est Mélissa, votre neurodivertissante, et avec mes deux acolytes, Solène et Fran. Hello, mesdames!
Hello!
Comment allez-vous?
Très bien, honnêtement.
Ben moi, honnêtement, pas si bien que ça, je recommence le travail, mais bon. Je suis fatiguée, mais ça va bien, hein? Ça va bien, je suis de bonne humeur.
Génial, oh, c'est ça. On ne dit plus « ça va bien aller », c'est rendu comme « Oh, Seigneur. Mais, non, je suis contente d'être là avec vous. Puis là, ben c'est ça, pour ceux qui n'avaient peut-être pas remarqué, on est rendu sur un horaire estival au moment de publier cet épisode. Je dois avouer que mon « time blindness » fait que ça ne change pas grand-chose pour moi, que je me sens moins stressée.
Je te confirme que moi aussi, genre, je suis comme, les deux semaines passent vraiment vite. Fait que j'ai pas l'impression nécessairement d'être moins, comme, rushée ou moins stressée. Je suis comme, oh well, c'est tout un gros blur de temps. De ce temps-ci, j'ai plein d'événements, puis souvent, on dirait que, comme, des événements pas nécessairement méga significatifs, mais qui vont engendrer soit des livrables, soit du stress. Puis j'ai toute l'impression que ma vie s'arrête après l'événement, puis on dit, je suis plus capable de planifier au-delà. Donc, mettons, tu sais, là, l'exemple le plus récent, c'était justement le défi aux entreprendre. Ben, genre, le gala régional me stressait, fait que c'est comme s'il n'y avait plus rien après le gala. Puis c'était comme, ma vie n'existait plus après. Fait que quand ça décloche, après, je suis comme, oh mon Dieu, oui, ok, c'est vrai, il y a ça. Fait que là, genre, ma notion du temps est complètement déflaboxée, pour vrai. Ça fait pas de sens.
J'ai l'impression que t'es en train de vivre le switch entre l'opérationnel puis le projet.
Mais encore!
Mais, tu sais, un peu, le comme gestionnaire, vu qu'avant, tu étais gestionnaire, ben c'est en mode opérationnel, c'est comme un long marathon, tu sais.
Oui,
quand tu tombes,
oui.
Ben, dépendamment aussi de la réalité de l'entrepreneuriat, mais quand tu tombes plus avec des projets, comme là, tu avais comme une date de tombée avec Ose Entreprendre, c'était comme un projet en soi, ben ça devient des sprints.
Mais c'est oui, ça, mais ça,
après le sprint, il y en a un autre, tu sais.
C'était un truc que je me créais en réalité opérationnelle. Il me fallait des mini-sprints parce que pour vrai, sinon, j'y arrivais pas. Fait que ça, c'était quelque chose que naturellement, j'implantais dans mon quotidien.
Et là, c'est ta job qui l'implante.
Ouh! C'est fou, Red! Écoute, j'ai trouvé un format qui me convient mieux. C'est le fun, ça.
Ben oui. Écoute, fantastique. Mais écoute, parlant de format, puis parlant de job, on vient avec nos petites casquettes RH aujourd'hui pour parler...
Mais de neurodivertissante aussi, là.
Oui, ben oui. Fait qu'on vient avec nos casquettes RH pour parler de culture, mais à la sauce, comme tu dis, Solène, neurodivertissante. Mais qu'est-ce que la culture? Qu'est-ce que cette chose que tout le monde parle, mais personne ne semble être en mesure de toucher, de grasp, parce que je suis moi en anglais, mais c'est...
D'attraper, de saisir.
D'agripper, oui. Fait que c'est cette chose que tout le monde semble dire que c'est bien important, mais c'est quoi la culture? C'est-tu le climat? Comment est-ce que ça se positionne? Puis là, avant d'enregistrer l'épisode, on se demandait, OK, on veut que l'épisode s'adresse à tous, mais et encore à comment... À tous et à tous, toi?
Merci.
Oui.
Je peux méditer à l'écrit, mais au parler, merci de me reprendre. Donc, pour parler à tous, mais à la fois de donner, peut-être une vision plus au niveau de la culture inclusive pour les personnes RH, mais aussi pour donner à l'auditoire qui n'est pas nécessairement en gestion, mais qui est neurodivergente, bien, c'est quoi le poids que vous pouvez avoir dans une organisation, c'est quoi l'influence que vous pouvez avoir, comment est-ce que vous aussi, vous pouvez comprendre la culture, puis peut-être apporter des changements dans l'organisation, fait avec ces lunettes-là qui s'entrecroisent, mais c'est l'esprit qu'on veut donner un peu à l'épisode aujourd'hui. Donc, peu importe si vous êtes en gestion, en RH ou un employé, ben sentez-vous bien à l'aise d'écouter l'épisode puis de vous questionner sur comment est-ce que vous pouvez peut-être changer l'endroit où vous travaillez éventuellement pouvoir mettre des actions en place.
Ouais, parce qu'on s'entend, une personne toute seule ne peut pas changer la culture, mais
non.
On peut pousser dans cette direction-là et enclencher le mouvement.
Exactement, tu sais, la culture nous influence et on influence la culture, c'est comme tellement dans la temporalité que ça se fait, là. Puis là, je vous avertis, là, je suis un brin passionné par le sujet de la culture organisationnelle.
Juste un peu.
Donc, il se peut que peut-être que potentiellement, il y ait une couple de théories qui émergent ou que je vous partage, parce que j'ai lu beaucoup, beaucoup sur le sujet.
Oui. On sait que tu vas nous parler de Shine, en tout cas.
Entre autres, parce que, ben, Shine est l'auteur... Ben, un, c'est un auteur qui est quand même prolifique, là, on s'entend, là.
Oui, effectivement.
Il est très, très présent dans plusieurs, on va dire, domaines, parce que son expertise est comme transversale au-delà des RH, mais il y a aussi le fait que, ben, ça a été mon cadre théorique pour mon mémoire, là, fait qu'on se cachera pas que, tu sais, je le connais un petit peu beaucoup.
Ça va être intéressant. Mais oui, vas-y, mais qu'est-ce que Shine nous raconte, justement?
Oh mon Dieu, tu nous parles ça de même!
Ben oui, pourquoi pas, allons dans le vif du sujet.
Ok, je sais pas si je suis prête. Mais attends, en fait, non. Ce que je suis prête à dire, c'est, j'aimerais, avant qu'on parle de Shine, parce que Shine va comme suivre, là, mais la culture, là, est-ce qu'on pourrait se proposer chacune de nous trois sur une espèce d'énoncé de comment on la définit, juste pour voir à quel point on part de la même place, puis comment on converge?
Mm-hmm.
Ouais, non,
ça aussi, c'est...
Il n'y a pas que toi qui peux lancer des challenges,
mais
comme
ouais.
Ça. Mais je, même que par bonne foi, je vais vous proposer mon, comme moi, comment on dirait que je conceptualise, mentalise la culture, là. Mais la culture, pour moi, c'est quelque chose qui est complètement intangible, et tangible d'une certaine façon, mm-hmm. dans le sens où c'est partout dans la vie d'une organisation qu'on en ait une volontaire ou pas, on en a une. Puis là, je pense à Mélissa qui nous parle de marque employeur, là, qui nous dit que
j'avais la même réflexion.
Tu sais, c'est vraiment la culture, c'est tout autour de nous, ça prend place dans tout ce qui est visible, les façons de parler, les symboles, les gestes, les slogans, mais c'est aussi très intangible dans le sens où, puis là, c'est là où ça va faire sens avec Shane et je développerai ces artefacts physiques-là. Et là, on m'a dit, je disais vraiment souvent le mot artefact, fait que je suis désolée.
Mais il est important.
Là, mais il est très important. Les artefacts sont influencés par des valeurs sous-jacentes, puis ces valeurs-là, ben, on va les incarner ou on va les nommer, mais elles seront pas nécessairement complètement alignées et ça va aller avec toutes nos croyances. Fait que, oh, je suis déjà dans la chaîne finalement, excusez. Mais tout ça pour dire que moi, ma vision de la culture, c'est quelque chose qui est un peu comme, ben, c'est classique, mais l'iceberg, tu sais, il y a tout ce qui est justement ce qu'on voit, ce qu'on vit, ce qu'on ressent, ce qu'on est capable de d'écrire, mais sans être nécessairement capable de le relier à tout ce qui est intangible et invisible, qui est cette espèce de fog, de brouillard tout autour de nous. Mais je dis brouillard parce que ça a l'air négatif, mais c'est pas négatif, c'est plus ce côté où c'est partout, ça s'immisce. On le voit des fois, on le voit pas d'autres fois. Hey, c'est pas clair, finalement, mon affaire. C'est pour ça que ça défie intéressant.
Ouais, mais moi, en fait, je suis assez d'accord avec toi. C'est pas étonnant non plus, mais ma définition rejoint beaucoup la tienne. Puis la culture aussi, c'est ce qui va faire qu'on sait que comment agir dans une organisation. Donc, ça peut être problématique pour les personnes neurodivergentes, par exemple, parce que de saisir cette chose intangible, c'est plus complexe parfois.
Oui! Puis c'est full intéressant parce que... Et là, hey, mon Dieu, moi, ça aura pas d'allure aujourd'hui, je suis pas prête moi-même. c'est super intéressant parce qu'il y a cette notion de, justement, quand on arrive dans un nouveau milieu, on va vouloir comme se rallier à la culture parce qu'on va vouloir correspondre. Par exemple, dans un artefact, de dire, moi qui suis arrivée à HEC, exemple. Moi, je suis arrivée en jeans et en t-shirt, je me sentais vraiment pas à ma place quand j'ai regardé tout le monde qui était en, comme, un peu en tenue de ville. Puis je me suis rendu compte que j'avais ressenti ce besoin de me rallier à cet artefact culturel-là, alors qu'au final, c'est en étant le plus moi-même que j'ai fini par, comme, venir influencer ou avoir, comme, un impact différent que si je m'étais fondue dans la masse culturelle dominante, genre.
Oui, puis encore une fois, pour reprendre l'exemple d'HSC, je te dirais qu'il y a des gens comme toi qui ont influencé la culture au final, parce que, comment dire, quand j'ai commencé à HSC, vraiment tout le monde était en complet et en tailleur, c'était épouvantable, moi je rêvais là avec mes cheveux bleus, ça fitait pas, là. Puis c'est à force de, je sais pas, au fil des ans, il y a de plus en plus de gens qui arrivaient là en jeans, puis des choses comme ça, puis ça a vraiment changé. HSC n'est plus le HSC que j'ai connu au début, vraiment plus.
C'est exact, c'est un bel exemple. By the way, je me considère absolument pas instigatrice de quoi que ce soit à HEC, là. J'étais juste à dire que c'est un exemple de clash où on se rallie à la culture.
Non, mais je te disais qu'il y avait des gens comme toi qui l'avaient fait, puis que c'était un mouvement de masse qui a mené à ce que ça devienne un... Tu sais, j'avais plus l'impression de reconnaître l'UQAM à la fin, même HEC n'est pas l'UQAM, Mais tu sais, je reconnaissais beaucoup plus l'ambiance ukamienne que quand je suis arrivée là.
Puis toi, Mel, comment tu décrirais ça, la culture organisationnelle, là, si on veut rester dans le pas trop théorique?
Si je faisais une métaphore, t'as moyen avec une métaphore, c'est un peu comme la recette de la sauce secrète. Fait que tout le monde sait qu'est-ce qui est supposé de goûter la sauce, mais on ne sait pas nécessairement qu'est-ce qu'il y a dedans tout le temps. Il y a quelqu'un en quelque part qui est supposé savoir qu'est-ce qu'il y a dedans, par exemple. Et les gestionnaires, généralement. Fait que pour faire une image très courte, c'est un peu comme ça que je le vois. La culture, c'est tout ce que vous avez dit. Je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Puis pour moi, c'est les lignes directrices, puis ce qui est véhiculé. Fait que quand on dit que les bottines suivent les babines, ben les bottines et les babines vont à la même vitesse, à la même place ensemble. Puis ça, c'est la culture, puis ça va se définir de par les actions, de par les décisions, de par les valeurs, de par comment est-ce qu'on design les processus. Fait que ça va se décaler à travers, comme tu dis, tous les différents artefacts de l'organisation. Mais ultimement, c'est pour prévoir, avoir une certaine prévisibilité sur ce qui est attendu de nous, ce qui est attendu du groupe, puis de ce qui est attendu pour que... De ce qui est attendu en termes de trajectoire aussi pour l'organisation en tant que groupe. Plus que ta culture, elle est forte, plus que tu es capable de... Dans le livre de Frédéric Laloux, il y a une autre métaphore que j'aime beaucoup qui compare, dans le fond, une culture très agile. Puis là, tu sais, on est en train de parler d'un type de culture, mais par exemple, une culture très agile où ce que quand les lignes directrices sont vraiment très claires et comprises et intégrées de tous, on devient un peu comme une nuée d'oiseaux. Tu sais, tout le monde va ensemble dans le même sens, mais personne ne se rentre dedans, puis personne n'a besoin de se dire où ce qu'il va. Fait que quand la culture, elle est claire et bien intégrée, c'est ça que ça crée un espèce de magnétisme, un espèce de mouvement très centralisateur pour l'ensemble du groupe.
Exact, mais ça a quelque chose de très paradoxal dans le sens où on va vouloir aller vers une culture forte, mais en même temps pas prôner une espèce d'homogénéité qui assimile non plus. Fait que c'est tout le temps un équilibre très complexe, un peu un exercice de funambulisme. Puis excuse-moi, Solène, je pense que je t'ai interrompue dans ma lancée.
Mais non, on s'est tous les deux interrompus. En fait, pour aller plus loin dans le mode agile, à la limite, on n'aurait même plus besoin de gestionnaire parce que la direction est tellement bien comprise par tout le monde que le gestionnaire n'est plus, là où la gestionnaire, on s'entend, n'est plus nécessaire pour donner un sens, une poussée aux employés. Donc, la culture serait à ce point-là. Par contre, dans le modèle agile, chacun et chacune amène ce qu'elles ont à amener à l'entreprise. C'est-à-dire qu'on va se baser sur leur capacité, leurs compétences, leurs envies pour créer des postes qui sont adaptés et recréer un peu l'entreprise à chaque fois qu'on a une nouvelle recrue, finalement.
Exact. Mm-hmm.
Puis, tu sais, ça fait appel au principe de... Tu sais, ça, c'est de l'holocratie. à sa plus grande expression, mais ça ramène aussi beaucoup au niveau de la culture. Puis, je sais pas si vous l'aviez prévu un peu plus tard, mais les définitions du ad culture versus le fit culture.
Non, ça va être intéressant parce que ça, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup en plus.
Oui, parce que ce que tu dis, c'est vraiment l'essence aussi du ad culture. L'ad culture étant où ce que... La culture est faite pour que chaque personne qui vienne ajoute, s'additionne à l'équipe avec sa couleur, avec ses forces et compétences, au lieu d'être dans une culture de fit, qui est généralement ce qu'on voit autour de nous, puis ce qui est préconisé, qui est vraiment une culture où ce qu'on veut que les gens fitent avec qui on est, où les gens savent qu'ils doivent fitter avec qui qu'on est. Fait qu'exactement, peut-être, qu'est-ce que tu as vécu au HEC. Fait que les deux types de cultures, un peu, c'est là où on est un peu en virage avec nous, qu'est-ce qu'on essaye d'apporter aussi comme vision, puis qu'est-ce que l'agilité essaie d'apporter comme vision dans le côté ad versus le côté fit.
Oui, mais en fait, c'est de se compléter, que le fit culturel, ce soit de se compléter et non pas de se fusionner puis de regarder, d'être la même chose exactement. C'est pas de copier. Oui, c'est ça, c'est pas la simulation, c'est vraiment la complétion.
T'allais dire quoi, Fran? Ben, c'est ça, j'allais apporter le fait qu'en plus, le piège du fit culturel, c'est que parce que la culture, c'est complexe, c'est beaucoup plus grand que soi, puis c'est plus grand que la somme des individus qui composent une organisation, ben, souvent, quand on va rechercher des fits culturels, au final, on va passer par nos biais, puis on va plus miser sur des fits personnels. On va faire comme, ah, cette personne-là correspond à ce que moi, je comprends de la culture ou des valeurs de. Je pourrais facilement aller prendre une bière avec cette personne-là. C'est un fit culturel. Puis là, je mets ça extrême. Mais en tant que tel, le fit culturel devrait être bien plus réfléchi que ça, parce que souvent, on va chercher un fit culturel sans savoir c'est quoi notre culture. On n'a même pas de données, on n'a pas de mesures, on n'a pas d'intention, parce qu'il y a aussi ça. Des fois, on veut pouvoir justement contribuer à une optimisation, un changement culturel. Fait qu'il faut que les personnes qui viennent, qui s'ajoutent justement, contribuent à cette comme vision qu'on a là, pour la culture. Puis c'est là où moi, je me dis, la culture, c'est ce côté très insaisissable où on doit se ramener à des principes et à des valeurs et à des croyances bien plus qu'à des manifestations physiques et observables.
Ouais, mais en fait, tu niaises en disant qu'on irait prendre une bière avec la recrue, mais il y en a, j'en ai entendu des gens en recrutement qui disent que c'est un de leurs critères, tu sais. C'est ouais, mais si l'équipe a envie d'aller prendre une bière avec cette personne-là, ben c'est elle qu'on embauche, mais ça existe pour vrai, c'est, ça fait peur.
Mais ouais, c'est vrai que ça existe. Bien, là. Aïe, aïe, aïe. Mais tu sais, c'est là où je vais ramener un peu mon chaîne là, que j'ai un peu effleuré tantôt, là, c'est que dans la notion de culture, là, quand on regarde la théorie de Chang qui nous parle de trois composantes de la culture, on le nommait tantôt, il y a les artefacts, les valeurs, les croyances. Puis les artefacts, ben, c'est tout ce qu'on observe. Donc, comme je disais un petit peu tantôt, ça va être dans la façon de parler. T'sais, est-ce qu'il y a une communication qui est très top-down? Est-ce que, justement, la façon de prendre les décisions va être vraiment verticale, va être très centralisée? Est-ce qu'on va avoir des uniformes? Est-ce qu'on va avoir des symboles dans le logo, dans les badges, dans plein de choses. Donc, tout ce qui va être visible va nous parler beaucoup d'artefacts, mais ces artefacts-là vont pas nécessairement être réellement représentatifs soit des valeurs que l'organisation va vouloir mettre de l'avant ou bien de croyances ou de biais qui sont sous-jacents et inconscients, dans le fond, parce qu'on va avoir tendance à rationaliser, intellectualiser qu'est-ce qu'on met en place en l'associant à une valeur, mais sans se rendre compte qu'au final, on va peut-être perpétuer des obstacles discriminatoires ou des privilèges pour un groupe culturel dominant, par exemple.
Effectivement. Voilà. Longue, silencieuse et époustouflée devant ta tirade.
Mais je peux donner un exemple par rapport à la neurodivergence, tu sais, ça a été... parce que je peux comme...
Non, mais j'avais rien à ajouter, c'est parfait ce que tu disais.
Ben, merci, mais je me dis c'est peut-être un peu flou encore, si je peux l'illustrer, parce qu'on me dit souvent qu'il faut que je rende ça plus pratico-pratique, mais tu sais, mon mémoire, c'est exactement là-dessus qui a porté. Dans les volontés inclusives, on crée des solutions, on crée des options. Par exemple, on a créé les programmes d'embauche pour les personnes autistes. Puis ça part d'une volonté inclusive de se dire, j'ai une sous-représentation des personnes autistes dans mon bassin de main-d'œuvre. J'aimerais ça aller en chercher plus. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour être plus inclusive? Ah, ben je vais adapter mes pratiques. Ce qui part d'une très, très bonne... comme prémisse, au final. Sauf que quand on regarde les programmes, comme ils sont faits, puis là, je vais mettre ça comme très généralisé, ils sont pas tous faits comme ça, mais bien souvent, c'est OK, ben pour avoir accès à ce programme-là, ben un, il faut un diagnostic, première affaire. Ensuite, ça parle de, ben je vais monter un programme basé sur des traits stéréotypés de ce qu'on considère être une personne autiste. Ensuite, je vais les amener à vouloir accéder à un poste qui me semble fitter ma conception de l'autisme. Et très souvent, plus souvent qu'autrement dans la littérature, on va retrouver les autistes aiment le travail routinier, les tâches répétitives, la précision, puis avec pas trop de contacts sociaux. Donc, très souvent, on va regarder des programmes qui vont diriger comme dans une espèce de corridor vers ces programmes-là. Après, on nous parle d'inclusion, mais au final, ces programmes-là, ben bon, déjà, ils parlent de diagnostic. Donc, on a un regard médical. Donc, il faut que la personne ait eu accès à un diagnostic, que ce soit financièrement, en termes de temps ou en termes de connaissance de soi. Ensuite, il faut qu'elle fit les critères. Donc, qu'elle corresponde à un certain modèle clinique, un portrait, là. Après, ben comme je disais, ben il y a le côté très one size fits all. Fait qu'on ne considère pas la variabilité des personnes autistes là-dedans. Donc, déjà, on n'est pas tant dans l'inclusion, on est dans « Ah, ben, je te fais fitter un autre modèle, comme un modèle que je t'impose un petit peu, un moule. » Puis, par la suite de ça, ben, les gens sont plus en intégration parce que comment tu fais après pour expliquer « Ah, ben, moi, je suis rentrée par ce programme-là. » Tu sais, comment tu mingles, comment tu viens t'inclure dans l'écosystème organisationnel. Il y a des gens qui vont percevoir que tu as eu peut-être un passe-droit, un privilège. Mm-hmm. Il y a des sentiments d'injustice qui peuvent ressortir. Ensuite, tu n'auras peut-être pas l'accès à avoir une évolution verticale ou horizontale dans l'organisation. Je veux dire, comment tu es capable de sortir de cette boîte-là. Fait que quand on regarde un petit peu cette pratique-là, puis qu'on analyse, on se rend compte que les croyances sous-jacentes, c'est que, ben dans le fond, l'autisme, ben ça représente plus une condition médicale avec des déficits qu'on doit offrir de quoi pallier pour fitter dans la norme. Ça parle beaucoup plus aussi de croyances généralisantes et stéréotypées que ça parle d'inclusion où on serait vraiment plus en accueil de la diversité et de la personne dans toute sa complexité et où on pourrait offrir une panoplie, par exemple, d'options que tu aies un diagnostic ou non, juste sur tes préférences. En fait, ça parlerait plus de se remettre en question nous. Si moi, j'engage pas une personne parce qu'elle me regarde pas dans les yeux, ça parle bien plus de moi que ça va parler de l'autre personne, qu'elle soit autiste ou non, finalement.
Oui, ça me fait penser au type de gestion inclusive dont on voulait parler, mais qui c'est carrément ça, finalement. Mm-hmm. C'est la résistance, l'efficacité, la lutte à la discrimination et la justice sociale. La gestion proactive, puis dans ce que tu décris, ce serait beaucoup plus la lutte à la discrimination et à la justice sociale, donc de constater qu'il y a des différences, puis de s'assurer de respecter la loi et sans plus même. Ce serait à la limite à l'efficacité même, mais de s'assurer qu'on respecte les obligations légales et puis de ne pas aller au-delà de ça, de pas offrir les mêmes dispositions à tout le monde, ce qui serait beaucoup plus de la gestion proactive. Mais peut-être que tu veux expliquer ce que sont ces types de gestion.
Oui, ben oui, puis je veux juste voir, parce que là, de toute façon, je parle beaucoup, mais est-ce que tu avais un ajout à faire sur mes tirades?
Ben, depuis tantôt, moi, j'ai deux choses, parce que j'ai stické sur Artefact, puis moi, tout ce que je vois, c'est genre toi qui se promène avec un chapeau d'Indiana Jones.
Dans oui! Là. Merci!
Fait que c'est comme si on partait à la recherche, justement, de ces artefacts-là. En tout cas, j'aime beaucoup avoir cette image de Fran qui se promène avec un chapeau d'Indiana Jones. Je pense que j'ai trouvé mon visuel. Puis l'autre chose aussi que je voulais ramener, c'est ça, tu sais, quand tu parles, par exemple, de, tu sais, comme là, c'est un exemple de tokenisme, tu sais, où ce que l'idée d'avoir cette culture-là inclusive passe par des mécanismes qui sont pas nécessairement inclusifs, c'est là où ce qu'on voit des disconnects au niveau de les bottines qui suivent les babines. Fait que c'est, c'est au centre de toutes ces décisions-là, c'est quoi les valeurs qui ont été mises en place, puis comment est-ce que chacun des gestionnaires va s'assurer de les véhiculer au niveau de la communication. T'sais, est-ce que mes valeurs de l'organisation font en sorte que si j'ai un programme, je vais vraiment avoir quelque chose qui fit dans ma culture? Est-ce que je vais créer une sous-culture basée, comme tu dis, sur des stéréotypes? Puis plus que ta culture, justement, elle est diluée et moins efficacement communiquée, plus que tu as le risque d'avoir des sous-cultures qui se créent au sein de ton organisation.
Exact.
Là, tu perds la mainmise sur exactement la façon dont tu veux que ton groupe s'oriente puis qu'il véhicule les lignes directrices que l'organisation souhaite véhiculer.
En même temps, les sous-cultures, on va en avoir forcément. C'est juste qu'ils doivent s'intégrer dans la culture de groupe.
Effectivement, les sous-cultures, elles vont exister de toute façon. Puis en fait, chaque personne qui va vouloir comme contribuer ou transposer ou communiquer les intentions va être un prisme, un filtre qui va de toute façon teinter la suite de ses valeurs. Fait que tu sais, si on regarde l'exemple des programmes d'embauche autiste, ben l'artefact, c'est le programme. Les valeurs souvent qui sont mises de l'avant, c'est « Hey, on veut être inclusif, on veut être innovateur, on veut avoir accès justement à une intelligence collective, on veut, on veut être des pionniers, on veut vraiment comme changer les pratiques. » Fait qu'on a des valeurs qui sont totalement aligné, on va dire, avec l'artefact, mais au final, la croyance qui habite ça, ben comme on disait, vu que c'est comme plus médical, plus généralisant, puis qu'on met les gens dans un corridor et donc en intégration, ben finalement, on n'est pas tant innovant. On veut encore continuer à comme respecter un petit peu les silos, on va avoir de la difficulté à venir mélanger les portraits, les façons de fonctionner, alors que l'innovation, on le sait, ça va naître justement de perspectives différentes qui vont se rencontrer. Donc, au final, on a des valeurs qui fitent les artefacts, donc intellectuellement conscients de ce qu'on fait, mais la croyance étant pas identifiée, parce qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, ben on se rend peut-être pas compte que finalement, on va à l'encontre des valeurs qu'on aimerait, ben pas nécessairement à l'encontre, mais comme pas tout à fait aligné avec les valeurs qu'on aimerait mettre de l'avant.
C'est ça. Puis tu sais, quand je parle de sous-culture, c'est sûr qu'il va en avoir, là, comme vous dites, c'est plus de prévenir les sous-cultures rogues qui pourraient émerger, tu sais, puis qui pourraient être...
Les Gaulois.
C'est ça, des espèces de Gaulois. Puis tu sais, quand on se dit justement que... Hey, je m'excuse, je l'ai perdu, c'était parti, c'était revenu, puis là, je...
Ben, c'est correct.
C'est correct.
On peut parler des types de gestion pendant ce temps-là.
Oui, ben, ou je laisse 2 minutes à Mel, je peux réfléchir, ouais.
Non, si ça revient, ça reviendra.
OK.
On peut peut-être parler de résistance, tu sais, c'est la... parce que c'est ça, il y a 4 types de gestion
inclusive. Oui, c'est ça.
Ouais. Enfin, il y en a plus que ça, mais on va rester sur 4. Puis là-dessus, ben, ils sont pas forcément meilleurs les uns que les autres, c'est juste qu'ils sont à différents stades où est-ce que l'entreprise est rendue. Et puis, ça va varier selon les situations aussi des fois, donc c'est pas coupé au couteau forcément. Mais bref, pour commencer, peut-être qu'il y a la résistance. Donc ça, c'est la négation de la diversité. C'est le statu quo pour tout le monde. C'est la même chose pour tout le monde. C'est one size fits all. Et puis donc, pour reprendre l'exemple des programmes pour les autistes, ce serait de ne pas avoir de programme pour les autistes. Ce serait d'avoir le même processus d'embauche pour tout le monde. Puis si ça marche pas, ben t'as pas d'affaires chez nous. That's it.
Exactement.
Okay. Fait qu'on va c'est l'individu qui va se fondre dans la masse et qui va faire les efforts pour rentrer dans la culture.
Oui, puis comme souvent, puis là, on en parlera un petit peu, mais ça va aller avec un niveau de maturité et de réflexion, dans le sens où une organisation qui a une culture très forte et homogène, où le bassin de main-d'œuvre se ressemble beaucoup, puis là, pas pour créer des camps, parce que c'est très important de rester, on va dire, en dialogue et avec des alliés, mais c'est sûr que quand on regarde un groupe culturellement dominant qui a eu des privilèges, par exemple une organisation qui est composée majoritairement d'hommes blancs, cis, hétéros d'un certain âge, ben c'est sûr qu'ils vont peut-être pas vivre la... ils vont pas se dire « Hey, on a un problème de diversité, on a un problème d'inclusion », parce qu'il va avoir une espèce d'homogénéité qui fait qu'on va être bien. Donc, on va être dans la négation de la diversité, parce que on en ressentira comme pas le besoin, puis qu'on sait pas ce qu'on sait pas.
Ouais, ça me fait penser au meme où est-ce que c'est je sais pas si je vais être capable de le retrouver, mais c'est une table d'hommes blancs d'un certain âge, enfin à peu près tous du même âge, ils sont vraiment similaires les uns aux autres, qui sont devant une femme qui est de l'autre côté de la table et qui disent « Mais qu'est-ce que vous pouvez apporter à notre organisation?
» Oui, ouais. C'est ça. Là, tu allais dire quelque chose?
Mais, oui, je sais pas.
C'était bon, ben écoute, il y a l'efficacité aussi qui on va reconnaître les compétences de la personne qui est différente. On va même à la limite développer sa carrière, mais on va lui offrir des formations pour qu'elle se joigne à la culture dominante. Et donc, s'assurer on va reconnaître donc qu'il y a une différence, qu'il y a même, à la limite, on va considérer ça comme une certaine lacune avec d'immenses guillemets. Et puis, on va lui donner des formations pour qu'elle puisse rejoindre la culture dominante.
Exactement. Puis, l'approche de gestion par l'efficacité, elle a du bon parce que, justement, on va prioriser la compétence et donc, on va se rallier autour de ce développement-là et non pas des caractéristiques de la diversité de chaque personne. Donc ça, bien utilisé, quand c'est formalisé, quand c'est mis dans des processus, ben ça peut diminuer les biais autour de la diversité, justement. Par contre, c'est absolument insuffisant pour avoir une culture organisationnelle inclusive. C'est plus que c'est un des mécanismes, une des gestions de la diversité de manière culturelle qui peut contribuer. C'est juste que seul, ça vient surtout créer justement une forme d'élitisme, puis une forme de méritocratie. Oui, c'est ça, c'est de l'intégration, puis une méritocratie qui est souvent ancrée dans des biais de toute façon, parce qu'on va avoir des attentes envers certaines personnes. Je veux dire, on va s'attendre, par exemple, d'une femme qu'elle soit plus diplomate, plus douce, plus, etc. Donc, quand elle va avoir des comportements d'affirmation d'elle, de prise de décision, malgré que ce soit des compétences qui vont être valorisées dans l'organisation, ben quand ça va être une femme, par exemple, ça va être mal vu, mal perçu, et donc, on va peut-être pas valoriser sa compétence dans son expression, versus chez un homme, par exemple.
Oui, effectivement, puis c'est vraiment l'intégration dans sa forme la plus pure, c'est-à-dire que les deux groupes sont séparés et ne se fondent pas l'un dans l'autre. Donc, en fait, l'objectif, c'est de passer du petit groupe qui est minoritaire au groupe majoritaire. Ouais. Et donc, mais effectivement, ça se fait pas si bien que ça, c'est pas fluide comme mouvement. Et ça, t'allais parler?
Je me suis mis à prendre des notes quand j'ai passé.
T'as pris le truc de Fran!
Oui, ben écoute, là, c'est bon. Fait que pour revenir, quand on parlait de résistance, là, ce que je voulais dire, puis ce que ça m'a fait penser, puis je vais pouvoir basculer après ça sur qu'est-ce qu'on parlait au niveau de l'efficacité, mais quand tu as ton groupe qui est très homogène puis qui s'est bâti autour justement des biais de similitude, quand tu veux donner la chance à quelqu'un de rentrer dans l'équipe, parce que tu dis « il me semble qu'on est toutes des têtes blanches ici, il faudrait peut-être avoir un petit peu de couleur », par exemple, juste pour donner cet exemple qui est très...
basique, mais efficace.
Basique et stéréotypé et efficace. c'est que si la personne, elle arrive, puis que là, elle ne fit pas, parce que là, on passe vraiment du continuum de fit au add, là, en ce moment. Fait que quand on est vraiment dans le fit à 100% pur, la personne qui arrive, ça risque de ne pas fonctionner parce que la culture ne permettra pas son inclusion. Puis là, les gens vont dire, ben c'est un paquet de troubles à inclure, on va rester entre nous autres. Puis ça continue comme ça. Puis là, après ça, ben, on n'a pas réussi à bâtir des histoires de succès qui permettent de voir le plus-value de la culture inclusive.
C'est beau tout ça! Mon Dieu, j'aime ça, Mélissa! Mais avant que tu ailles sur l'efficacité, est-ce que je peux réagir?
Go!
Yay! Attends, je suis en train de perdre mes idées. Non! Oui, mais c'est ça, c'est que justement, quand tu vas aller tenter d'amener une personne qui, genre, juste fit pas culturellement, il va un peu avoir un phénomène de sélection naturelle puis d'attrition, justement. Ça va comme être rejeté par le groupe. Puis là, ben, les biais de confirmation vont embarquer, les biais de récence, les biais de négativité. On va énormément tirer les apprentissages qu'on veut bien tirer de la situation. Puis quand on regarde la culture organisationnelle, c'est la théorie de Gagliardi, si je me trompe pas, qui parle du changement organisationnel qui s'ancre dans le récit organisationnel qui est basé sur les victoires qu'on va vivre, les réussites, et qui donc vont venir modifier. Puis c'est vraiment un modèle en spirale, là, avec des itérations. Ben là, on n'aura pas vécu de victoire, donc on va se confirmer dans, ben non, ça nous nuit, on veut pas justement ce changement de culture-là. Alors que si on arrive à bien inclure une personne, que la personne apporte à l'organisation, ben justement, on va vivre une réussite, on va se confirmer dans le gain qu'on fait, et donc dans la temporalité, dans le récit organisationnel, ça va créer un héros, en gros guillemets, qui va nous permettre de modifier au fil des itérations. Mais on se rend-tu compte de la pression que ça met aux personnes qui sont ajoutées pour venir justement être les héros et héroïnes de ce récit-là qui doit évoluer, genre?
Mais c'est ça. Puis là, ben, pour faire évoluer ce récit-là, si on bascule après ça dans l'efficacité, mais c'est qu'il y en a qui vont se dire, bon, ben pour réussir à intégrer le marché du travail, ben, il va falloir que je fit dans la culture.
Que je mette un masque.
Réussisse à faire un caméon, c'est ça, de mettre un masque, de mettre de côté sa personnalité, son authenticité avec son manteau dans le garde-robe avant d'aller s'asseoir à son bureau. Puis, on se ramasse avec, par exemple, quand on parle de méritocratie, quand on parle d'ascension verticale qui est très valorisée, ben si on parle des compétences, puis qu'on revient à la notion du spiky profile des personnes neurodivergentes, ben ici, toutes les compétences sont basées sur les zones de défi, parce que c'est souvent ça, quand on parle de rôle d'entrée dans une organisation, ben on n'atteint pas le plein potentiel de ces personnes-là, fait qu'on n'a pas non plus des histoires de succès pour venir teinter justement la culture de l'organisation vers ça. Puis là, après ça, t'as du monde comme nous autres qui essaie de polliniser, puis qui se promène, puis qui veut véhiculer les histoires de succès qu'il y a ailleurs, mais on est quand même pris pour une gang de hippies peace and love, là, tu sais.
Puis d'utopistes. Mais tu sais, oui. Ça, je suppose que c'était ton commentaire avec l'approche de la gestion par l'efficacité?
Oui. C'est comment que je basculais vers l'autre dans... C'est comme le deuxième est comme en réponse au premier quand ça fonctionne pas, quand l'histoire de succès ne se crée pas du côté de la culture puis l'organisation, ben l'individu va essayer de le créer en s'adaptant.
Exact. Puis tu sais, quand on regarde ça, ce côté le côté pernicieux de la gestion par l'efficacité, donc par les compétences et donc de la méritocratie, ben c'est que qui fixe les critères, c'est les strates hiérarchiques supérieures. Qui compose principalement les strates hiérarchiques supérieures? Malheureusement, pas une grande diversité. Donc c'est déjà le groupe culturel dominant, souvent une forme d'élite, qui va avoir ce droit de regard sur qu'est-ce qui représente une réussite, une compétence. Puis comme je disais, on a déjà nos propres biais. Puis après, des fois, tu vas avoir des personnes qui vont monter, qui vont avoir une propension à donner plus de place à la diversité ou à divers parcours, sauf que ça va souvent être ancré dans des biais. Par exemple, si je suis une personne, peu importe que je sois neurotypique ou neurodivergente, mais qui a eu des difficultés à l'école, qui a un parcours super atypique, qui a été un peu underdog, qui a comme surmonté les obstacles, ben je vais comme être portée à donner de la chance à des personnes qui font écho à mon parcours. Fait que ça a du beau, mais reste qu'il faut avoir la conscience, la vigilance de se rendre compte que c'est ancré dans notre propre histoire qu'on veut, tu sais, réparer, résoudre d'une certaine façon.
Ouais, donc on veut encore une fois nous ressembler, et donc c'est pas tant ça reproduit les schémas finalement.
Ben c'est ça, on correspond, on contribue à une culture, oui, organisationnelle, mais comme qui part bien souvent de nos valeurs, de nos biais, puis ça peut avoir du bon, parce que ça peut faire changer les choses, mais c'est simplement d'avoir la conscience que ben c'est plus souvent ancré en nous-mêmes que dans la compréhension de la culture, qui est tellement, justement, insaisissable, intangible, puis comme partout et nulle part en même temps, tu sais. Solène, est-ce que tu veux nous amener au troisième,
à la troisième approche? C'est la lutte à la discrimination et à la justice sociale. En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'on va respecter les obligations légales. Donc, on reconnaît qu'il y a des différences. On reconnaît qu'il serait bien de les inclure et qu'on ne peut pas agir one size fits all. Ça marcherait juste pas. Donc, on va faire le minimum requis. Ce qui est très bien, en fait, c'est la base quand même. Mais puis si on va faire ça en fonction de notre engagement et de notre capacité à le faire. Donc, ça va vraiment être selon un schéma où est-ce que on va voir, on va faire selon ce qu'on est capable de faire. Oui, Fran, je suis pas claire, hein?
Non, c'était clair. J'allais ajouter des choses parce que d'accord. Ça fait bien
plus clair que je pense c'est light.
Non, mais j'allais dire, tu sais, je réalisais pour notre auditoire pourquoi on vous parle de ces approches de gestion de la diversité en lien avec la culture. Parce que je me suis dit, ah, on a-tu fait ce parallèle?
Ah, ben oui, c'est vrai, on a pas fait ça.
Ben c'est simplement que ben c'est des gestions qui sont sur le plan de la culture, justement, parce que quand ces approches-là sont présentes, elles parlent vraiment de notre culture organisationnelle. Donc, quand on est dans des approches de gestion de la diversité qui sont très dans la résistance, on va justement avoir des artefacts alignés, des valeurs alignées avec cette non-inclusion de la diversité. Là, quand on parle de la lutte à la discrimination et la justice sociale, c'est un modèle qui est quand même assez dominant, je dirais. Mais en tout cas, moi, de ce que j'observe dans mon échantillon dans les organisations, donc c'est un modèle aussi qui est très en réactivité. Donc, on est comme « Ah, il y a un problème dans la société » ou « Ah, il y a un problème dans mon organisation, je vais vouloir le pallier. » Donc, je me rends compte que j'ai pas assez de femmes ou que j'ai pas assez de diversité, ben je vais vouloir comme réparer en me ramenant peut-être à la norme de l'industrie de la représentativité. Et ça, culturellement, mais ça va paraître parce que ça va avoir des artefacts du genre, on va mettre en place des initiatives isolées ou spontanées, comme en silo, par exemple, faire de la rédaction d'offres d'emploi inclusives. Mais après, on n'aura pas une transversalité de l'inclusion dans notre culture parce que la personne va rentrer avec plein d'espoir de ce qui lui avait été fait miroiter par une rédaction inclusive, par exemple. Mais il n'y aura rien de mis en place au niveau de la rémunération globale, au niveau de l'avancement comme de carrière, au niveau de l'environnement, par exemple. Donc, notre culture, là, on va vivre une espèce de clash quand on va arriver et on va devoir se réajuster à quelle est réellement la culture organisationnelle ambiante, quel est le climat, parce que le climat va aussi parler de ces dissonances-là qu'on peut vivre entre, par exemple, des valeurs qui sont mises de l'avant par l'organisation et des pratiques de management, par exemple. Et juste vous dire, selon Shine, la personne qui entre dans une organisation, la façon qu'elle se sent, c'est un artefact digne d'analyse en soi. Parce que si on vit une dissonance nous-mêmes comme personne, ben ça peut nous parler justement de qu'est-ce qui est à observer entre les valeurs, les croyances et qu'est-ce qui est réellement mis en place.
Ouais, mais... Et j'ai perdu mon idée, j'aurais dû écrire, comme vous autres. Mais c'est souvent là où est-ce que nous... j'ai retrouvé mon idée. C'est souvent là où est-ce que moi, je vais être appelée, par exemple, à donner une formation. Parce que c'est une première étape. C'est quand même l'étape par laquelle on passe tous et toutes. C'est là où est-ce qu'on va se rendre compte qu'il y a un souci et mettre en place des premières actions pour que le changement s'enclenche. Donc, c'est l'étape de la sensibilisation où est-ce qu'on va faire quelques premiers pas sur le chemin de l'inclusion. Donc, c'est pas mauvais d'être à cette étape-là. Je pense qu'on passe, toutes les entreprises passent par là, ou enfin, je leur souhaite de passer par là. Mais c'est pas, il y a autre chose au-delà de ça dont on va parler dans quelques instants, mais c'est une première étape finalement.
Mm-hmm. Mélissa, puis après je suis... Ben, t'as pris des notes Mélissa, fait que je m'étais dit que t'avais des choses à dire.
mais oui, j'avais envie de revenir parce que ça revient avec ce que j'avais perdu au début. Tu sais, quand on communique et qu'on intellectualise beaucoup comment est-ce qu'on devrait faire l'inclusion, mm-hmm. On se ramasse avec des choses comme ça, puis quand on veut que les bottines suivent les babines, ben c'est là que les enjeux que tu mentionnes sont présents. Puis quand tu parles de dissonance, je sais pas si pour tout le monde c'est clair c'est quoi vraiment, oui. La dissonance, comment qu'elle est vécue, qu'est-ce que ça veut dire, parce que des fois on peut le ressentir, mais on sait pas nécessairement que c'est ça, tu sais. Mais justement, quand tu arrives dans l'organisation, puis que tu as un sentiment que la justice procédurale, tu sais, que la façon dont les décisions sont prises ne correspondent pas à la façon que tu pensais que ça serait pris en fonction de ce qui t'a été communiqué, comme par exemple la culture fait que tu veux que tes employés aient de la place pour se développer et innover, mais qu'à chaque fois, il faut que tu fasses micromanager, par exemple, tu sais. Tu vis une dissonance. Puis ça, mais c'est pas toujours tangible, mais je pense que c'est le plus gros flag qui se présente, là, puis que c'est légitime, en fait. Là. C'est, si quelqu'un vit une dissonance, il va tuer sa lune de miel avec son employeur. Puis ça, ça vient affecter ton taux de roulement, ça vient affecter ta rentabilité, puis ça vient affecter aussi le moral des troupes autour de toi là, quand tu as un gros taux de roulement, veux, veux pas. Puis en étant toujours en mode réaction comme ça, mais c'est sûr qu'on on se cachera pas, là, tout le monde en ce moment au Québec est en train d'essayer de juste prendre des bouchées d'air à travers les vagues qui font comme... Tu sais, pénurie de main-d'œuvre dans certains secteurs, la pandémie, tout, je veux dire, on sait, le RH, on sont à bout de souffle, mais... Comment est-ce que, justement, tu peux switcher à ce moment-là du mode réactif puis de faire des choses un peu à moitié ou de façon juste assez, tu sais, juste assez sécuritaire pour pas nécessairement te commettre? Ouais, parce que tu dis, ah, si je suis trop bold, ça va peut-être donner l'impression que, fait que j'y vais petit à petit.
Faut pas que la marche soit trop élevée non plus, tu sais.
C'est un peu comme quand la piscine est frette, puis tu y vas comme l'orteil, puis la cheville, puis le... Mais tu sais, tout le monde attend que tu viennes te baigner, là, puis tout le monde sait que tu vas être bien, là, une fois que tu t'es tempéré, là, fait que, tu sais, fais juste sauter, puis ça va être...
Faut mettre de l'eau dans ton cou, c'est ça le truc!
C'est ça! Ah oui, OK, bon, moi je suis de celles qui trempent l'orteil, là, mais... fait que, tu sais, tout ça pour dire que quand tu réussis à basculer avec le prochain que tu vas dire en mode proactif, tu sais, oui, la formation est un moyen, oui, l'analyse des besoins est un moyen, oui, le coaching est un moyen aussi parce que des fois, tu veux justement changer tes façons de penser. Tu as besoin d'avoir beaucoup de feedback, que ce soit de la part de tes employés, de l'externe, des professionnels du domaine, parce que sinon, tu te retrouves dans ta tête avec tes propres biais puis tes propres histoires. Fait que le but, c'est de s'ouvrir, autrement dit. Ouais. C'est là que j'essaie de m'en aller.
Puis tu sais, ce que ça me fait penser en ce moment, c'est que c'est ça, souvent, les mettons une organisation qui veut mettre de l'avant sa culture, sur quoi elle va s'appuyer? Elle va s'appuyer sur ses valeurs. Fait que dans les offres d'emploi, tu vas voir, on a une grande famille, viens nous rejoindre, tu sais. Ouais. Mais sans avoir nécessairement fait une analyse de qu'est-ce qui se passe réellement. Puis on n'a comme pas de données, hein? On n'a pas de metrics. On est comme, OK, ben qu'est-ce que je cherche à atteindre avec ma culture? C'est quoi ma vision plus stratégique de ce que je vais avoir comme culture? Puis on se pose comme pas la question. Donc, naturellement, on va miser sur ce qui nous semble représentatif et donc ancré en nous. Puis c'est drôle parce que moi, si je dois parler de culture, un clash que j'ai vécu, c'était dans une ancienne organisation où j'ai travaillé. C'est une organisation qui a, comme quand je suis arrivée, était assez petite, on va dire, quelques centaines d'employés. Donc, il y avait une culture avec des artefacts assez familiaux. Dans le sens où les personnes qui faisaient les horaires, elles connaissaient tout le monde, elles connaissaient leurs préférences, leur numéro de téléphone, les situations conjugales, il y avait quelque chose de vibe très familial. Puis l'organisation a énormément grandi. Donc là, à un moment donné, tu pouvais plus retenir les numéros de téléphone par cœur de toutes les personnes puis les situations préférées. Donc, ce que ça a fait comme clash, comme dissonance, c'est que la culture, elle a pas eu le choix d'être impactée par le contexte. Donc là, il y a eu une culture plus... c'est dans les procédures, dans axer sur justement le how-to, les tâches, l'efficacité, et beaucoup moins sur l'ambiance petite et grande famille. Sauf que beaucoup d'employés qui étaient là depuis un temps ont vécu le clash puis s'accrochaient à je m'attends encore à des artefacts familiaux dans un environnement qui persiste à me dire que on est une grande famille. Alors qu'au final, ça correspond plus du tout à la réalité. Fait que là, dans le récit organisationnel, on avait un gros, gros clash qui créait de la résistance, créait justement des personnes qui se sentaient vraiment pas bien au travail. Et moi, je me souviens quand j'en avais parlé avec un professeur à HEC, quand j'ai analysé cette culture-là, ce qui m'avait aidé parce que il y avait eu plusieurs enjeux aussi au niveau politique, etc. Il m'avait dit, arrête de voir cette culture-là comme une culture de résistance. Vois cette culture-là comme une culture ancrée dans un récit avec des traumas organisationnels. Puis on dirait que ça m'avait permis de réaliser que les gens étaient en rétablissement, en guérison. Et ça fait que la culture, elle change sur une très longue temporalité, au final.
Oui, c'est long changer une culture. Ouais. Mais Dieu sait qu'on ne veut pas être une famille, parce qu'une famille, tout le monde se ressemble. On a la même histoire, on a les mêmes valeurs, on a la même façon de fonctionner, puis c'est pas du tout riche comme façon de fonctionner. Fait que, puis tu sais, une famille, en plus, il y a des chicanes, fait que... On veut pas ça.
Oui, puis on est pogné avec le devoir filial. Je dis non, on veut pas ça. Oh, c'est pas un argument qu'on devrait avoir dans les offres d'emploi. Moi, je vous le dis tout de suite.
Ah non, c'est mal vu.
Puis dans ce que tu dis, je pense qu'il y a aussi une notion au niveau de tout ce qui était gestion de changement qui a probablement pas été faite ou bien faite.
Mais une hyper-croissance, c'est ça.
Mais une hyper-croissance est un changement en soi qui doit être traité comme un changement qu'on gère. Puis les valeurs, tu sais... moi, je trouve que c'est tellement important de voir tes valeurs, comment est-ce qu'elles vont être pérennes dans le temps. C'est quoi l'intemporalité de tes valeurs? Puis si elles ne sont pas intemporelles, d'avoir le courage de les changer et de communiquer pourquoi tu les changes.
Ouais.
Puis comment est-ce que ça va impacter? Puis après ça, bien, si tu peux... Tu sais, tu peux... Mettons que tu pars vraiment avec un set de valeurs puis qu'il est ancré, que tu changes puis que tout d'un coup, ça ne fit plus... OK, mais comment est-ce que la valeur ne fit plus puis comment est-ce qu'on peut la réajuster, la réadapter? Ça va dans la façon dont tu vas être capable de traduire ta valeur dans toutes les prises de décision, dans toutes les actions puis dans toutes les communications.
Mm-hmm. Oui, puis je pense que c'est là où il y a un switch à faire entre cette espèce de côté traditionnel de, tu sais, on a toujours fait ça comme ça, ça nous a toujours desservi à une vision plus stratégique avec à quoi je veux me ramener, tu sais, à quoi, peu importe comment j'évolue, c'est quoi mes forts, mes valeurs auxquelles je me rallie et que ça devienne un peu mes principes directeurs plutôt que d'essayer d'appliquer des solutions qui fitteront peut-être pas plus tard, justement.
Oui, puis là, il faut savoir que les valeurs, c'est pas la direction qui décide ça. C'est un projet commun, finalement, où est-ce que les valeurs de l'organisation vont être le mix entre les valeurs des employés, celles qu'on va percevoir quand on vit au quotidien, puis les valeurs que la direction veut mettre de l'avant. Et donc, ça va être un compromis, finalement, ou enfin un regroupement.
Une négociation de valeurs, en fait.
Oui, c'est ça. Parce que, tu sais, d'imposer des valeurs, ça va mener nulle part, finalement.
Exact. Puis dans la gestion du changement et dans le rôle conseil, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup, cet espace de négociation de valeurs. C'est se dire entre ce qui est explicité par l'organisation, ce qui est vu, mettons, à des strates hiérarchiques par une réalité professionnelle X et ce qui est vu avec les employés pour une autre réalité professionnelle, mais comment on se rejoint? Ben justement, c'est là, je pense, qu'on a des leviers pour accompagner comment la culture veut se vivre.
Oui, puis Dieu sait que les changements sont beaucoup mieux acceptés quand on a notre mot à dire dans ce changement-là. Donc, on a l'impression d'avoir de pouvoir l'attraper, de pouvoir l'influencer. Donc, ça va être plus facile à vivre.
Merci. Puis, je me permettrais de débattre sur le sujet.
Ah oui, mais vas-y, c'est fort.
J'aime ça.
Parce que dans un certain sens, oui, il faut que ça soit partagé puis que ça soit peut-être négocié dans le sens où une entreprise qui va à travers une restructuration puis qui se donne comme objectif de revoir ses valeurs, à ce moment-là, oui, je suis entièrement d'accord qu'il faut que ça soit un exercice qui prend en considération chacune des parties prenantes de l'organisation, incluant les employés. Mais quand tu pars une organisation comme entrepreneur, tu vas décider de ton set de valeurs en créant ton organisation, puis ton organisation va grandir autour de ces valeurs-là aussi. Moi, mes valeurs sont faites pour être inclusives puis être faites en fonction que si un jour je grandis, bien, je vais être capable de les travailler. Mais les valeurs, pour moi, c'est mon langage d'entreprise, c'est la façon dont je travaille. Fait que c'était clair pour moi quand je les ai établis, c'est peut-être pas aussi clair pour tout le monde comment bien choisir ces valeurs. Mais je pense qu'à un moment donné, tu sais, il y a une valeur peut vouloir dire plein de choses pour plein de personnes. Fait que sans nécessairement avoir à les changer, des fois, c'est juste de réajuster la définition, la compréhension d'une valeur à travers les différentes parties prenantes. Tu sais, par exemple, où j'étais avant, le set de valeurs qu'on avait, on les expliquait aux clients, on les expliquait aux employés, on les expliquait aux fournisseurs, comment est-ce que chacune de ces valeurs-là se répercutait sur chacune de ces parties prenantes-là, puis concrètement, comment ça se voyait. Fait que dans des cas comme ça, tu sais, s'il y a une incompréhension ou une valeur n'est pas bien, portée par un certain groupe de personnes, bien, peut-être que pour eux, la façon dont elle est définie ne correspond pas à la réalité, puis ça demande un dialogue sans nécessairement de changer la valeur.
Ah oui, il faut que ça soit des actions, là.
Oui, puis je suis d'accord avec ce que tu dis. Tu sais, j'ai deux points à contribuer, puis ça nous amènera bien à la gestion proactive après, justement, là, mais premièrement, il faut que ça descende de la vision stratégique et du leadership, de la direction. Nécessairement, il faut qu'il y ait une prise de position forte. Par exemple, si on veut avoir l'inclusion comme valeur dans notre organisation, ça a été démontré dans plein d'études. C'est le poids du leadership va être vraiment, vraiment important parce que ça va parler d'une imputabilité, ça va parler d'un engagement, ça va parler justement de pratiques qui vont descendre et être réellement incarnées par l'organisation. Il y a ça. Ensuite, il y a l'enjeu de la création de sens et de leadership discursif parce que justement, il faut être capable de communiquer la vision et le sens que ça fait pour notre organisation, pour notre mission, pour notre pratique, pour les résultats qu'on cherche à atteindre. Puis ça, je pense que ça va être le récit justement auquel on va pouvoir se raccrocher. Et finalement, je pense quand même que ça demande une vigilance parce que ce que tu nommes, c'est super intéressant. Par exemple, quand tu as des entrepreneurs qui débutent puis qui se créent justement une définition de valeur autour de laquelle on a envie de construire la culture organisationnelle, bien, OK, quand tu es 3, personne dans l'entreprise. Mais quand ça va grandir, ça va être de réaliser que, ben, justement, il va y avoir les sous-cultures, il va y avoir les filtres, comment ça va se décliner, tes valeurs. Puis je pense d'aller faire cet exercice d'analyse de, OK, comment mes valeurs sont incarnées au quotidien. Parce que si je parle d'innovation, mais qu'au final, je passe mon temps à être dans des artefacts de tradition, ben, il y a peut-être quelque chose à réajuster dans mes processus si je veux conserver ma valeur stratégiquement pour que ma culture puisse évoluer vers une valeur d'innovation, par exemple.
Oui, parce que l'entreprise va devenir plus grande que soi, finalement.
Exact.
C'est plus facile de décider quelles vont être les valeurs quand on est seul, quand on est un petit groupe, alors que quand on est un grand groupe, ben là, forcément, ça doit être un compromis ou, enfin, une manière de changer les valeurs, par exemple. Ça peut être de dire aux employés, mais qu'est-ce que vous voulez comme valeur, comme organisation? Qu'est-ce que vous attendez de nous? Et là, on essaie de voir, ben nous, comme direction, est-ce qu'on veut aller vers ça ou pas? Et puis, ça peut être un moyen de faire un compromis. Donc, c'est souvent ce qu'on va faire en analyse de la marque employeur de mon côté, c'est de voir qu'est-ce que les employés ressentent, qu'est-ce qu'ils veulent avoir. Puis après ça, ben, qu'est-ce que la direction ressent, qu'est-ce qu'elle veut prôner également, puis trouver le compromis à travers tout ça.
Exact. Puis ça, c'est là où ça va nous amener très, très bien à la gestion proactive de la diversité dans la culture. Parce que justement, tu peux avoir une direction avec l'inclusion très fortement à cœur. Donc, ils vont nous dire, on veut avoir une organisation inclusive, neuro-inclusive, on veut que ce soit mis de l'avant, on veut que ce soit une valeur forte dans notre organisation. Mais là, c'est de se dire, OK, comment ça se passe sur le plancher des vaches au quotidien, justement? Et donc, il va y avoir une notion de mettre en place des artefacts qui vont venir influencer, par exemple, des politiques et procédures qui vont diminuer les biais, une formalisation, une standardisation de certaines pratiques pour justement diminuer la discrimination systémique, puis diminuer la perpétuation des privilèges. Donc, cette gestion proactive-là va aller en amont, elle va aller au-delà de ce qu'on attend en termes de contraintes légales et va vraiment venir se positionner avec la diversité comme norme de référence et non pas la norme majoritaire comme norme de référence. Et là, la culture va pouvoir comme se moduler autour de cette agilité inclusive-là, finalement.
Oui, c'est ça, c'est que l'inclusion va faire partie des politiques, la culture va devenir elle-même une part de la culture.
Principe.
Oui, c'est ça, c'est quelque chose de base sur lequel on va s'appuyer, finalement.
C'est ça, puis tu sais, ce qu'on peut voir aussi souvent, moi, je m'amuse à regarder les sites Internet de différentes entreprises quand je regarde les marques employeurs ou quand je regarde les descriptions de postes, tu sais, puis de voir, OK, les valeurs qui ont été choisies, souvent, j'ai l'impression que c'est des valeurs qui ont été choisies pour attirer des clients.
Puis être mise sur le mur, là, tu sais, t'as une belle affiche avec nos... Voici nos valeurs!
C'est ça. Puis je me souviens, tu sais, dans le cours lancement d'entreprise, on avait eu une discussion autour des valeurs, justement, puis tu sais, moi, c'est un de mes dadas, là, fait qu'on en parlait, puis tu sais, ça n'a pas obligé d'être un mot qui ressemble à une valeur standard, tu sais, ça peut être une phrase, ça peut être comment est-ce que tu l'interprètes, ça peut être bold, ça peut être tellement de choses, ça n'a pas obligé d'être vraiment respect, agilité, et...
Mais puis il y a aussi des entreprises qui ont tellement de valeurs qu'on ne sait plus où est-ce qu'on
s'en va. Ouais, exact.
C'est ça.
Puis, tu sais, respect, agilité, comme tu dis, ça veut comme plus rien dire. C'est super galvaudé, là.
Tu sais, on est agile, c'est qui Gilles? Mais en
fait, oh, j'aime ça. Mais oui, puis c'est ça, puis c'est là où, comme quand on parle de culture, justement, et de gestion proactive de la diversité et de l'inclusion, ben ça va être de se rendre compte que ben ça va demander un regard en profondeur dans notre culture et donc d'aller regarder plein de sphères de notre vie organisationnelle. Donc, ça va être dans les processus de recrutement, ça va être dans la rémunération globale, ça va être dans le day-to-day, vraiment, les interactions. T'sais, est-ce qu'on valorise les interactions autour de la machine à café? Est-ce que, au contraire, on standardise énormément les réunions? L'environnement aussi va être tellement représentatif de la culture, parce que tu peux te dire aussi inclusif que tu le souhaites. Si dans ton environnement, ben tu prônes que sur les espaces ouverts de brainstorming, où il n'y a aucun espace de répit, ou bien que tu as des toilettes individuelles, mais genrées, ben tu es comme vraiment en contradiction avec une valeur d'inclusion de par ton environnement. Puis des fois, c'est des petits changements. Puis ça nous ramène à nos débuts du podcast en ce moment, tu sais, le petit guide de 101 de la neuro-inclusion.
Oui!
C'est tellement comme la culture, elle est partout. Puis on ne peut pas tout changer. Je pense qu'il faut se donner des plans d'action. Il faut prioriser. Il faut regarder nos leviers d'action sont situés où. Puis c'est là où c'est intéressant d'aller s'aligner avec les ressources, les motivations et les valeurs des employés. Parce que sinon, ben on va être dans des clashs, des dissonances et de la résistance. Mais un changement de culture, ben, surtout si on veut y mettre de l'inclusion, ça va demander un travail vraiment de profondeur puis de transversalité. Moi, c'est ça que je retiens, puis d'intersectionnalité aussi, d'arrêter d'être dans les silos.
Mm-hmm. Mm-hmm. Puis je pense que c'est de voir si tes valeurs, dans la façon dont tu les articules, il y a des contradictions. Tu sais, par exemple, si tu dis « Ah, OK, on va avoir la valeur de l'inclusion, mais on a aussi une valeur de haut standard de qualité. OK, mais est-ce que tes hauts standards de qualité vont venir impacter ton ouverture à inclure des personnes? Parce que des fois, bon, si tu fais pas bien ton inclusion, ça peut avoir des répercussions négatives sur la qualité. Fait que tu pourrais retourner dans la route de la facilité des pantoufles puis de dire, ben écoute, finalement, si on veut garder cette atteinte de qualité-là, il faut qu'on fasse des compromis sur l'inclusion. Ben, faire des compromis sur les valeurs, c'est jamais gagnant.
Mm-hmm. Mais tu sais, moi, c'est justement c'est ce que j'aime faire dans ce que je propose en accompagnement et service conseil, c'est vraiment ces analyses culturelles-là. C'est de dire, OK, entre qu'est-ce que tu souhaites qu'il soit transmis, qu'est-ce qui se vit réellement, qu'est-ce qui est perçu, qu'est-ce que tes processus disent, est-ce qu'on a une adéquation ou au contraire, on a justement des contradictions parce que c'est tellement des belles zones d'intervention justement pour réaligner l'organisation avec la culture à laquelle elle aspire au final.
Mm-hmm. Puis de voir aussi au niveau de qu'est-ce qui est communiqué, parce que quand on revient à la façon dont on communique la culture, est-ce qu'on communique la culture telle qu'elle est maintenant ou telle qu'on la perçoit ou qu'on veut qu'elle soit un jour? Fait que tu sais, oui, il y a une notion de faut démontrer aussi qu'est-ce qu'on veut atteindre, mais de façon très transparente en disant voici ce qu'on veut atteindre et non ce qu'on est.
Oui, puis je reviens à cet enjeu de il manque de données puis de mesures, parce que souvent, c'est pas qu'est-ce qu'on a. On a la culture comme telle qu'on la perçoit en haut, telle qu'on veut qu'elle soit, mais OK, je suis d'accord avec le fait qu'on voudrait peut-être l'aligner, mais il faut aller prendre le pouls, il faut aller faire l'état de situation réel avant, tu sais, comme, OK, même si j'ai toutes les meilleures intentions du monde, qu'est-ce qui se passe réellement sur le plancher un petit peu, là?
Oui, puis il faut pas hésiter à expliquer qu'on vise un changement aussi, parce que c'est sûr que si tu arrives avec toutes tes politiques et tes pratiques de ressources humaines, notamment, qui sont complètement en place avec ce que tu as prôné avant, ben ça marchera juste pas, puis les gens vont pas embarquer. Tandis que si tu leur dis, ben là, on change tout, puis on sait là qu'on s'en va, ben là, ça va être beaucoup plus facile d'accepter ce changement-là.
Exact. Puis comme là, j'ai envie de dire, parce que je vois le temps qui file, je sais qu'on a du buffer parce qu'on a des problèmes techniques, mais j'ai envie de regarder un petit peu avec vous le message d'espoir qu'on a envie de lancer justement à nos professionnels, soit qui sont neurodivergents, neurodivergentes elles-mêmes, ou les personnes qui veulent contribuer, tu sais, à cette révolution neuro-inclusive que le podcast souhaite mener depuis le début. Tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on l'a dit au début, c'est difficile de changer les choses solo. Hein? Donc, comment ça peut s'inscrire? C'est quoi nos pistes d'action? Comme personne.
Mais la sensibilisation, puisque ce qu'on vise en premier lieu, c'est la lutte à la discrimination, à la justice sociale. Donc, ça va vraiment de commencer à sensibiliser, de montrer, de faire ressortir les différences, les problèmes aussi qu'il y a. Donc, ça va être une première piste d'amélioration.
Mm-hmm. Mélissa, en as-tu à proposer, toi, de ton côté?
J'écoutais plusieurs TED Talks en fin de semaine, puis il y en a un qui m'a créé une dissonance.
OK.
J'ai été valider ma pensée avec mon époux. Puis, parce qu'il disait, c'est quoi le but de penser généralement? Le but de penser est de penser le moins possible en temps normal. Fait que, généralement, c'est que tu vas penser pour plus avoir à y repenser.
Je pense que je suis brisée.
Mais d'où la dissonance que j'ai vécue.
Tu vas réfléchir pour qu'ensuite ça soit tout seul. Donc, tu vas c'est bien ça. Faire les choses, puis après ça, ça va rouler tout seul.
C'est ça. Avec le profil cognitif que j'ai et que je sais, d'où la réaction de Fran, tu sais, les gens qui sont tout le temps en train de penser, tout le temps, c'est un peu foreign, comme c'est un peu étranger.
Tu me connais clairement pas, là. Moi, j'ai une équipe de brainstorming 24/7 dans la tête, là.
C'est ça. Moi, t'es aussi, là, tu sais. Fait que. Mais si on te ramène à cette idée-là, qui pour moi ne fait pas vraiment sens, je me dis, OK, moi, sachant tout ce que j'apprends en continu au niveau des discussions, au niveau des lectures, au niveau de tout, cet état de curiosité perpétuelle-là me permet de voir la multitude d'angles morts parce que je suis toujours en train de penser. Fait que moi, si j'avais quelque chose à dire par rapport à tout ça, c'est juste de dire, continuez de penser, d'être curieux, parce que si vous y avez déjà pensé, ça ne veut pas dire que c'est encore vrai aujourd'hui.
Mm-hmm. Ouais, mais faut pas s'asseoir sur ses lauriers, c'est ça que tu veux dire. C'est ça. Oui, on va faire les choses pour que ce soit plus facile après, on va faire le ménage, mais ensuite, il faut continuer d'évoluer là-dedans. Faut pas,
ouais, c'est ça.
Faut comme dégager le chemin, puis ensuite, on continue, par exemple, on va plus loin. Le chemin, si on le dégage, c'est pour continuer d'avancer, tu sais.
C'est ouais. Ça, pour réussir à passer justement de ce mode réactif-là au mode proactif, parce que quand on est réactif, on y pense, puis on essaie de le régler.
Mm-hmm. Oui, mais le mal est déjà fait, il y a déjà un artefact de mauvais, tu sais.
Oui, j'allais dire, ben ça, vous le nommez, tu sais, je pense qu'il y a cet enjeu de se faire ambassadeur, ambassadrice au quotidien, dans les petites actions, de poser des questions, d'être confortable avec l'inconfortable. Mm-hmm. Moi, je pense que c'est là une clé aussi, c'est de se mettre en déséquilibre parce que ben, c'est le naturel humain que de vouloir se rallier, que de vouloir préserver un petit peu, justement, un certain statu quo ou un certain confort. Fait que c'est difficile de se prononcer quand on observe des micro-agressions ou quand on tu sais qu'on est mal à l'aise. Mais moi, je pense que c'est une des clés pour faire changer les cultures, c'est déjà de poser des questions, puis de parler, vraiment, sensibiliser, puis de polliniser. Tu sais, c'est des petits gestes, là. C'est soit de parler de son vécu, de son propre savoir expérientiel, mais ça peut aussi être de référer vers des ressources, donc un beau podcast comme les neurodivertissantes, genre, mais aussi de parler de l'inclusion comme d'une expertise. C'est pas spontané et organique, l'équité, diversité, inclusion. Là, honnêtement, ça prend une réflexion, ça prend une stratégie. Donc, je pense que déjà ça, si on tient un dialogue ouvert où on se permet de se déséquilibrer puis d'être dans le malaise puis d'apprendre, déjà là, je pense qu'on va pouvoir contribuer à un changement. Puis après, ben se rassembler aussi avec des personnes qui vivent les mêmes enjeux puis créer des initiatives, des mouvements. Ben, ça peut avoir justement un impact bien plus grand, un effet boule de neige, hein, quand ça parle de la réalité des employés, puis qu'il y a plusieurs personnes qui s'associent dans un comité ou dans une initiative, ben, ça peut être assez surprenant de voir comment ça va remonter, puis comment ça peut influencer ensuite. Justement, c'est un artefact qui va venir débalancer la culture.
Ouais, mais en même temps, il faut des alliés, tu sais, faut pas rester entre nous, faut aussi aller chercher des gens qui vont nous accompagner là-dedans et qui vont faire boule de neige, comme tu disais.
J'ai catapulté mon élastique un instant, je vous reviens. Mel, je t'écoute.
Non, mais ce que ça me faisait penser, c'était que, tu sais, il y a bien des choses dans la vie qui valent la peine puis qu'il faut souffrir un petit peu pour y arriver. Tu sais, on va appeler ça que ce soit des growing pains ou de se dire, tu sais, il faut que j'aille des broches, ça va être douloureux pendant un petit moment, mais ça va vraiment valoir la peine. Bien, ça se peut que ça arrive, ça aussi, avec les dissonances, avec les résistances, avec. Ça va venir toucher l'ego par défaut, on n'a pas le choix de passer à travers ça parce que si on est en situation de privilège, ben il faut reconnaître qu'on est en situation de privilège. Puis juste ça, ça vient toucher l'ego en soi. Puis quand on touche l'ego, automatiquement, ça crée une certaine douleur interne. Oui. Pas de la grosse douleur, mais tu sais, quand même, c'est un inconfort.
Un inconfort. Tu sais, je disais, il faut être confortable avec l'inconfortable. C'est ça. Le leadership inclusif, là. Ça parle de ça.
Puis ce qui arrive avec ça souvent, c'est que dans les organisations, on est en mode agréabilité, puis on veut que tout aille bien. Fait qu'il faut pas parler des choses qui sont justement inconfortables. Fait qu'en sortant de cette agréabilité-là, puis en ayant ces discours-là ensemble, puis en essayant de se comprendre, même si c'est inconfortable par moment, c'est là qu'on peut arriver à grandir autrement. Sinon, tu te métamorphoses pas. Sinon, le papillon ne deviendrait pas, passerait pas par l'étape de glu dégueulasse à. Dans sa nef avant de devenir un beau papillon, tu sais. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Puis je pense que c'est mieux de dire les choses telles qu'elles sont, sans nécessairement sugarcoater tout le temps, que ça va être des rainbows, puis des oiseaux chantent, tu sais.
Ouais, puis en fait, c'est avec le mouvement de groupe, le mouvement de masse qu'on va arriver à la gestion proactive, tu sais. Donc, c'est vraiment chacun, tout ça dans son coin, va arriver à la lutte, à la discrimination et à la justice sociale. Puis c'est en groupe qu'on va atteindre la gestion proactive. C'est plus ça qu'il faut. Mais ça, il faut se regrouper, comme disait Fran. Il faut aller chercher des alliés. Il faut. Enfin, je dis faux, mais c'est pas nécessaire. En fait,
c'est
pas impératif, là.
Ouais, puis tu sais, vous n'êtes pas obligé non plus de partir quelque chose de nouveau. Il existe déjà énormément de ressources et d'associations, que ce soit dans des OBNL, que ce soit dans des mouvements citoyens communautaires. Il y en a plein. Donc, on peut aussi se rallier justement à des groupes qui ont déjà une portée politique ou justement symbolique, là.
Oui, puis souvent, les pratiques d'inclusion sont des bonnes pratiques à la base, tu sais. Ouais. Fait que on n'aura pas besoin de réinventer le monde, on n'aura pas besoin de polliniser ça tout dans nos politiques puis nos pratiques.
Oui. Je propose d'ailleurs de laisser des liens là, à la fin de l'épisode là, pour justement certaines de ces associations-là que j'ai en tête. Comme ça, vous pourrez aller explorer là, au niveau des différents groupes minoritaires, entre guillemets, donc que ce soit la communauté de SLGBTQIA+, que ce soit les communautés noires, les communautés neurodivergentes, il y en a plusieurs, là, fait que je vais vous laisser quelques liens.
Mm-hmm.
Puis, comment veut-on finir cet épisode qui fut, ma foi, passionné?
Oui, on a même pas
et on l'espère autant passionnant.
Mais moi, je le trouvais un peu éparpillé. Personnellement, je me sentais éparpillée, mais...
Oui,
et pas cohérente. Je pense qu'on va avoir beaucoup de montage à faire.
Non, mais c'est encore drôle. Souvent, je nous réécoute, je fais comme « Ah! Not so bad! » On dit des choses qui se tiennent.
Oui. Hey, moi, sérieusement, c'était pas mon meilleur épisode, mais c'est normal. Je suis pas dans mon meilleur moment non plus.
Que... Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a, comme on vous disait au début, la culture, c'est large, c'est insaisissable, c'est tellement ancré dans plein de processus et ça nous donne la place de décliner le tout dans plein d'autres épisodes avec et sans invité où on pourra explorer justement, tu sais, certains processus ou certaines sphères de la vie organisationnelle et comment ça se rattache à la culture puis comment plus précisément on a des leviers d'action et d'inclusion dans ces sphères-là, justement. Là.
Oui, non, vraiment, ça va être... Ben, on a déjà commencé, mais ça va...
Oui.
Ça va pouvoir se refaire.
Un mot de la fin.
Je dirais juste rester positif parce que, en tout cas, nous, on l'est, je pense que ça paraît. Mais, tu sais, créez vos histoires en fonction du positif que vous allez pouvoir en retirer, puis créez pas vos histoires en fonction des petits freins que vous pourriez trouver. Ouais. On sait que ça peut marcher, puis on sait qu'il y a beaucoup d'espoir de ce côté-là. Puis de toute façon, c'est le futur, on n'a pas le choix. Là. T'sais, comme tu dis, la diversité doit être la norme de référence parce que ce n'est qu'un fait. Tout le monde est différent comme tout le monde.
Oui.
Fait que...
On a ça d'égal que nous sommes tous et toutes différents.
Puis c'est beau comme ça.
C'est tout! Voilà! Fait que, bon deux semaines! On vous souhaite un bon deux semaines de estival, de repos, de travail, peu importe, mais dans tous les cas, de sujets passionnants. Et on se revoit bientôt! Bye!
Ciao, ciao!
Vous avez apprécié l'épisode? Vos animatrices ont eu du fun à vous le préparer et l'enregistrer. Pour les encourager, n'hésitez pas à parler du podcast à votre réseau, vos amis, vos collègues! Et si vous avez envie d'échanger, vous pouvez les trouver facilement sur la page Les Neurodivertissantes sur LinkedIn et sur Facebook.